Voilà, alors nous continuons notre aventure à travers ce chemin où nous nous sommes appelés à parler de ce qui nous habite profondément. Hier, je vous ai donc longuement parlé de ces quatre consonnes imprononçables qui représentent en quelque sorte un trou dans le langage, un principe d'évidement, comme le dit Michel de Certeau. Or, j'aimerais souligner aujourd'hui que ce vide, cet évidement, n'est pas une masse inerte, au fond. Ce n'est pas un abîme de néant, mais au contraire une force, une énergie, une dynamique qui engendre la vie et qui permet que la vie en nous circule. Il y a d'ailleurs une très belle illustration de ce dynamisme du vide chez les maîtres du Talmud qui explique que les tables de la loi qui ont été données à Moïse et qui ont, dit-on, été écrites du doigt même de Dieu, n'étaient pas seulement des lettres gravées dans la pierre, mais qu'elles la traversaient de part en part, comme pour dire au fond que le vide est le substrat même de la matière qui constitue la loi. La loi, c'est-à-dire cette parole qui permet que nous restions dans la liberté donnée. Donc, cette idée que la lettre se dessine en transparence, hein, avec le vide à l'intérieur d'elle-même, c'est un peu une métaphore pour cet espace en nous qu'est le nom de Dieu qui doit au fond demeurer inoccupé, qui doit demeurer vide, parce que c'est la condition pour que soit créé en nous un appel d'être, un appel d'air. Du vide qui crée un appel d'être. Or, ce lieu de nous-mêmes, qui est au fond, en quelque sorte, le point de rencontre entre le fini et l'infini, entre le ciel et la terre, est ce que les pères de l'Église appellent le topos tou seou, en grec, le lieu de Dieu, ou encore ce que la tradition hassidique nomme le point d'intériorité. Et c'est peut-être là, ce point-là, sur lequel nous nous appuyons dans la méditation. Mais ceci dit, et là je cite Catherine Chalier, dont vous connaissez peut-être le nom, qui est une disciple d'Emmanuel Lévinas. Catherine Chalier dit ceci: malgré sa centralité, ce point ne constitue pas un point fixe ou un ancrage essentiel qui, une fois pour toutes, figerait l'identité d'une personne ou d'un peuple. Il donne au contraire la force d'avancer encore, malgré les cicatrices du passé et le goût amer du présent, en faisant éprouver un renouvellement du dynamisme de la vie. Donc, malgré la centralité de ce point, nous sommes d'accord, il ne s'agit pas d'un état, d'un point statique, mais au contraire, d'un mouvement, d'une poussée qui appelle le dynamisme de la vie. Un enracinement nous est donc signifié, dont le chemin reste toujours à accomplir par nous. Et peut-être que cette parole de la première épître de Jean le dit à sa manière, dans la première épître de Jean, chapitre 3, verset 2, il est dit: « Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. » Dès maintenant, nous sommes. Ça, c'est la dimension du don. Et ce que nous serons, eh bien ça, c'est toute la dimension, on va dire, de l'éthique, de ce qui est à mettre en œuvre par nous sous l'horizon de la promesse qui nous est faite. Et je crois que la Bible le dit autrement quand elle fait parler Dieu ainsi dans la Genèse: « Faisons l'humain à notre image, selon notre ressemblance. » Au fond, l'image, si vous voulez, c'est ce qui est inscrit, c'est ce qui est écrit en nous, ce qui est donné d'emblée et à chacun. Et la ressemblance, eh bien, c'est ce qui est à faire par nous. L'image est en nous, sans nous, la ressemblance ne peut l'être qu'avec nous. C'est une phrase que Marie Balmary cite dans son livre La divine origine. L'image est en nous, sans nous, nous n'y sommes pour rien. La ressemblance ne peut l'être qu'avec nous. Et pour le dire encore autrement, eh bien, l'image, c'est l'appel à devenir ce que nous sommes, alors que la ressemblance, c'est notre réponse à cet appel. Tout appel demande réponse. Et c'est cette réponse qui donne à notre existence sa couleur propre. J'ai toujours été frappée par une phrase que j'avais notée un jour de Philippe Dautet, qui est un prêtre orthodoxe, qui dit « Notre vie dépend de la réponse que nous offrons à chaque instant. » Nous ne sommes pas maîtres de ce qui nous arrive. Par contre, nous avons quelque chose à faire de la réponse que nous offrons à ce qui nous arrive. Or, dans la conversation que les hommes de la Bible entretiennent avec eux, cette réponse, précisément, prend souvent la forme d'un « me voici ». Vous l'aurez certainement remarqué. Et selon André Néer, il faudrait plutôt traduire cette expression proprement hébraïque, « inéni » dans le texte, il faudrait la traduire par « oui, moi ».« Oui, moi ». Cette espèce d'affirmation de « voilà, je suis là, j'arrive, je viens ». Et le premier homme à prononcer ce « oui, moi » dans la Bible, eh bien, c'est Abraham. Son « oui » s'inscrit de façon significative et à trois reprises dans l'un des épisodes les plus dramatiques de son existence, qui est donc celui où Dieu l'appelle à monter sur le mont Moria, non pas pour y sacrifier son fils, comme on le traduit et comme on le pense souvent, mais pour le faire monter, pour le faire monter vers le divin. Ce « oui, moi », au fond, caractérise tout à fait l'être prêt d'Abraham. Être prêt d'Abraham, c'est-à-dire son ouverture à ce qui vient, quelles qu'en soient les conséquences. À Dieu qui lui demande d'emmener son fils sur la montagne, Abraham va commencer par répondre « oui, moi ». À Isaac qui va lui demander « mais où est l'agneau pour le sacrifice ?», il répond une deuxième fois « oui, moi ». Et enfin, au messager divin qui l'interpelle alors qu'il est sur le point d'égorger son fils, il répond encore « oui, moi ». Mais justement, la manière dont ce « oui » s'inscrit dans le récit nous montre bien combien ce « oui » est coûteux. Il ne coule pas de source, et ceux qui le prononcent en savent le prix, savent le prix qu'ils vont devoir payer pour l'avoir prononcé. Ainsi, Moïse, au buisson ardent, donc, dont nous parlions hier, quand il dit « oui, moi » à la voix qui l'interpelle, il sait déjà qu'il ne sera plus jamais le même. Il n'en sortira pas indemne, ni idem, pourrait-on dire. Car ce « me voici » n'est jamais une adhésion naïve, enthousiaste, mais plutôt la résultante d'hésitation, de débats intérieurs, de tâtonnements multiples. Une adhésion aussi à l'équivoque de l'avenir, parce qu'on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Mais quoi qu'il arrive, ce « oui, moi » signifie le choix d'affronter ce qui vient. Alors l'extraordinaire, c'est que dans la Bible, ce n'est pas seulement les humains qui prononcent ce « oui, moi », mais c'est Dieu lui-même. C'est Ésaïe qui nous l'apprend quand il dit « Alors tu appelleras et Adonai répondra. Tu crieras et il dira « Me voici ». Ésaïe 58, verset 9. Au fond, Dieu répond au cri de l'humain par un « Me voici ». Mais plus extraordinaire encore, c'est qu'il répond même à ceux qui lui résistent. Et c'est encore une citation d'Ésaïe, Ésaïe 65, versets 1 et suivant, « Je me suis laissé trouver par ceux qui me cherchaient, par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici à une nation qui n'invoquait pas mon nom. Hein? Donc c'est absolument magnifique de percevoir que Dieu a cette insistance de faire le pas alors que nous ne le recherchons pas. Il s'impose en quelque sorte à la relation, alors même qu'il peut nous être indifférent. Mais je reviens à Ésaïe 58 parce que je vous engage à aller voir la suite de ce verset, donc où Dieu répond à celui qui crie à lui, parce que justement la réponse de Dieu a lieu quand quelque chose se passe en nous. Elle n'a lieu, on pourrait dire, que lorsqu'elle donne lieu à un retournement du mal en nous-mêmes. Je vous cite Ésaïe 58, les versets 9 et 10. « Si tu élimines de chez toi le joug, le doigt accusateur, la parole malfaisante, si tu cèdes à l'affamé ta propre bouchée, et si tu rassasies le gosier de l'humilié, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, ton obscurité sera comme un midi. Tout ce que nous faisons à autrui est une manière de faire lever la lumière en nous. » Et pour le dire autrement, on pourrait dire que Dieu répond quand nous devenons nous-mêmes la réponse, par tout notre engagement de vie. Dieu se rend présent quand nous nous rendons nous-mêmes présents aux autres. Voilà qui, je crois, devrait nous faire réfléchir. Mais à propos de ce « me voici », cette parole si forte qui annonce notre désir de nous rendre présents, Herri de Luca, qui est un auteur que vous connaissez sûrement, a ces mots magnifiques. Voici ce qu'il dit. « Me voici » est l'expression des moments de vérité lorsque l'on est appelé à répondre de soi. C'est le pas en avant, le déclic qui fait sortir des rangs et expose au danger. Ce sont les mots les plus beaux que l'on puisse prononcer dans ces moments-là, une façon de se déclarer prêt, même si on ne l'est pas tout à fait. Avant de s'en servir, il faudrait s'entraîner à les méditer plus souvent. Bonne chance à qui devra dire aujourd'hui son difficile « me voici ». Je repense à ce que nous disait le père Laurence ce matin sur l'idée de sortir de la foule. Et je pense qu'il y a là un lien très clair. Sortir de l'indifférencié, c'est prononcer ce « me voici » qui nous met en route, qui entraîne notre responsabilité. Mais je voudrais insister sur la force de ce « oui » autant que sur sa fragilité. Ce « oui » ne vient jamais tout seul, il ne vient pas d'abord, parce que ce qui vient, je crois, d'abord dans l'épreuve, c'est le « non », c'est le refus, c'est la révolte. Ce « oui » survient toujours au terme d'un combat souvent douloureux. Et quand on peut le prononcer enfin, alors on entre dans une nouvelle liberté, dans une nouvelle vitalité. Jean-Louis Chrétien dit « Seul le diamant du oui peut véritablement attaquer toute négation en son cœur sans avoir à la nier. » Attaquer la négation, mais sans la nier, sans la renier, sans la fuir. Et ceux qui peuvent dire oui au souffle qui les traverse cessent alors d'être des morts vivants. Ils sont en chemin, ils agissent leur vie au lieu de la subir. Je vous disais hier que vivre, c'est au fond toujours passer de l'aliénation à la liberté, passer du statut de victime à celui de sujet. C'est rester dans l'éveil, dans la vigilance, puisque notre « je » peut à tout instant se retourner en néant. Je vous rappelez cette inversion des mots hébraïques entre ani, je et aïn, qui veut dire le néant. Et que tout notre chemin de vie consiste à passer du néant au je. Toute l'histoire du monde tient entre ces deux mots, disait un auteur juif. À l'origine, il n'y avait rien, il faut devenir quelqu'un. Quelqu'un qui peut dire « je » au lieu de se réfugier derrière le « on » qui n'est personne, justement. Nous avons sans cesse à passer du néant qui nous anéantit à la parole qui fait de nous des sujets vivants. Mais quel chemin ? Parce qu'il y a en nous tous un goût certain pour les chaînes. Nous revenons toujours, et de façon curieuse, à ce qui nous tient captifs. Nous sortons difficilement et rarement définitivement de nos Égyptes. Il y a toujours cette allée et venue entre l'Égypte et la terre de la promesse. Mais ce qui importe, je crois, c'est de trouver sur notre chemin des compagnons et des compagnes de route. Car nous grandissons essentiellement à travers des rencontres, à travers des conversations ou des lectures signifiantes. Et dans un petit livre que j'affectionne tout particulièrement et qui m'accompagne depuis longtemps, Martin Buber nous offre quelques balises pour le chemin. Des balises que j'aimerais maintenant commenter brièvement avec vous. Ce petit livre, c'est « Le chemin de l'homme », dont certainement beaucoup d'entre vous ont lu quelques pages ou l'entier. Ce petit livre magnifique que vous trouvez, je crois, aux éditions du Rocher, si c'est toujours là qu'on le trouve. Et voilà. Alors, Buber, là, va nous donner six petites balises qui me semblent essentielles et que je vous partage maintenant. La première, c'est ce qu'il intitule « Le retour sur soi-même ». En hébreu, le retour, la conversion, c'est la teshuva, signifie au fond essentiellement un retournement qui donne de voir autrement. Un retour non pas sur sa culpabilité, sur son propre péché, mais un retour à Dieu, orienté son regard vers la lumière plutôt que de rester éternellement dans ses propres ténèbres. Au fond, face aux toutes les pesanteurs qui alourdissent nos vies, face aux nœuds qui nous habitent et qui compliquent singulièrement notre relation à nous-mêmes et aux autres, face aussi aux tragédies de notre monde, nous pourrions rester sans fin dans la plainte. Mais ce serait ajouter du mal au mal. Or, je crois que la voie de la spiritualité nous propose précisément une toute autre posture, celle d'accueillir ce qui est pour le transformer, pour le transfigurer, celle de répondre à Dieu en répondant de notre propre histoire, ce qui veut dire en nous réconciliant avec elle. Comme le dit Sartre dans un mot connu, l'essentiel n'est pas ce qu'on a fait de l'homme, mais ce qu'il fait de ce que l'on a fait de lui. Répondre à Dieu en répondant de notre histoire. Et vous savez qu'en grec, la crise, crisis, signifie la décision, c'est-à-dire le moment où les éléments antagonistes se nouent de manière à décider d'une issue. Toute crise appelle un dénouement. Toute crise enseigne à habiter la vie autrement. Et la force revient, nous revient, quand on peut à nouveau accepter sa vie, quand on peut à nouveau la choisir, plutôt que de la subir. La crise devrait donc non pas nous porter vers la lamentation, mais bien vers l'élucidation, vers le discernement. Et accepter sa vie, je crois que c'est précisément la marcher, c'est marcher dans sa vie. Or, dans la Bible, le premier être qu'on entend marcher, c'est assez significatif, c'est Dieu. C'est Dieu qui marche dans le jardin d'Éden. Et que fait Dieu quand il marche ? Il est en recherche d'Adam. Dieu est en recherche d'Adam et lui pose une toute première question. Adam, où es-tu ? La première fois que Dieu parle à Adam dans la Genèse, c'est pour lui poser une question. Pourquoi, disent les rabbins, Dieu pose-t-il une question dont il connaît la réponse ? Sinon, pour qu'Adam fasse retour sur lui, pour qu'il devienne à lui-même, pour lui-même, une question. Et je crois que ce récit est totalement emblématique de toute la Bible. C'est-à-dire que la Bible entière, au fond, est une question adressée à l'humain. On la lit souvent, trop souvent, pour y trouver des réponses, mais en réalité, c'est elle qui nous lit. C'est elle qui nous déchiffre, qui nous met en question. Je vous rappelais hier qu'Israël, au désert, mange la manne, le manne ou le qu'est-ce que c'est. Il mange, il est en tout cas invité à se nourrir de la question. Et si vous parcourez les évangiles, eh bien vous découvrirez que Jésus ne fait que poser des questions, tout le temps, à tous ceux qu'il rencontre. Et vous, qui dites-vous que je suis ? Que veux-tu que je fasse pour toi ? Demande-t-il à Bartimée. Qui cherchez-vous ? De quoi discutez-vous ? Tant qu'on peut accueillir la question, on est en chemin. Le pire serait, une fois encore, de n'avoir que des réponses. Aux disciples de Jean, souvenez-vous, qui lui demandent « Où demeures-tu ?» Jésus ne répond pas, mais il les invite à faire le chemin avec lui. « Venez et vous verrez. » La réponse, c'est le chemin. Le chemin, c'est la réponse. Donc, Adam, où es-tu ? La question continue de nous être adressée. Où es-tu ? Où en es-tu aujourd'hui dans ta vie, dans ton monde ? Quand Dieu questionne ainsi, ce n'est pas pour apprendre quelque chose qu'il ne saurait pas, mais c'est pour provoquer en l'humain quelque chose qui ne peut être provoqué que par une telle question, à condition, bien sûr, que l'humain se laisse toucher par cette question. Et Buber le souligne, Adam, au fond, se cache. Adam se cache pour échapper à sa responsabilité, à la tâche de devoir répondre de ses actes. Et chacun d'entre nous est dans cette situation. Je cite Buber, « Afin d'échapper à la responsabilité de la vie vécue, l'existence est transformée en machine à cacher. C'est en se cachant ainsi et toujours à nouveau de la face de Dieu que l'homme s'enlise de plus en plus profondément dans la fausseté. » Or, la vérité, c'est que nous ne pouvons pas échapper à Dieu. Mais qu'en cherchant à nous cacher de lui, nous nous cachons de nous-mêmes, nous vivons à côté de nous-mêmes en nous perdant de vue par toutes sortes de moyens subtils, comme l'agenda surchargé ou les addictions de tout genre dont parlait ce matin le père Laurence. La question de Dieu, vous voyez, vient au fond briser cette machine à cacher que nous mettons toujours en route. Elle veut faire naître en nous le désir d'en sortir. Seulement, cette question est facile à étouffer parce qu'elle n'arrive pas dans un extraordinaire événement d'illumination, le plus souvent. Elle n'arrive pas dans le tremblement de terre ou le feu, mais c'est cette fameuse voix de fin silence qui a été révélée à Élie sur l'Horeb. Et Buber nous rend attentif ici au fait que aussi longtemps que dure la fuite, eh bien, notre vie ne peut devenir le chemin, ne peut devenir un chemin, parce que le chemin commence par cette reconnaissance, par cet aveu, j'ai eu peur et je me suis caché. Je cite encore Buber qui dit « La vie de l'homme, demeure sans chemin aussi longtemps qu'il n'affronte pas la voie. Adam affronte la voie, il reconnaît l'enlisement, il avoue « je me suis caché » Et c'est là que commence le chemin de l'homme, le retour décisif sur soi-même et le commencement du chemin dans la vie de l'homme. Mais, ajoute-t-il, et c'est tout à fait important, il n'est décisif, ce chemin, que si, ce retournement, pardon, que s'il mène au chemin. Car il existe aussi un retour sur soi-même infécond qui ne mène à rien d'autre qu'au tourment, au désespoir et à l'enlisement encore plus profond. Et vous voyez que ce retour infécond a lieu quand la question de Dieu est singée par une question démoniaque, qui ne s'en tient pas au « où es-tu ?», mais qui ajoute « de là où tu t'es fourvoyé, aucun chemin ne peut te faire sortir ». Cette idée que nous sommes à jamais dans l'impasse. Et le faux retour sur soi, justement, ne met pas sur le chemin, mais présente le retour comme sans issue. Dès lors, et c'est ce que souffle la pensée démoniaque, on peut très bien continuer à construire sa vie en vivant dans la fausseté, dans le faux semblant, et même à s'enorgueillir de cette fausseté, à s'enliser en elle, en pensant que de toute façon, il n'y a pas moyen d'en sortir. On peut très bien continuer sa vie durant à cultiver la diversion, à s'étourdir dans le fameux divertissement pascalien. Mais un jour ou l'autre, la question du sens, ou plus radicalement la mort elle-même, nous rattrape. Donc, premier point de méditation, le retour sur soi, et je vous invite pour votre méditation personnelle à aller guigner le chapitre 3 de la Genèse, les versets 8 à 10. Où en es-tu dans ta vie? Où séjournes-tu? Après le retour sur soi, deuxième point que Buber intitule « Le chemin particulier ». Après, au fond, ce premier questionnement, vient le temps du discernement pour savoir quel est le chemin qui nous est propre. Un jour, à son disciple qui lui demandait de lui indiquer, au fond, quel est le chemin pour servir Dieu, un rabbin répondit qu'il n'est pas possible de dire à quelqu'un quel chemin il doit suivre, parce que justement, les chemins sont multiples. Pour l'un, c'est la prière, pour l'autre, c'est le jeûne, ou pour un autre encore, c'est l'étude de la Torah. Chacun doit découvrir vers quelle voie le pousse son cœur et s'engager dans cette voie de toutes ses forces. Le chemin particulier. Ceci, je crois, nous permet de relire ce qui a été vécu, ce qui a été fait avant nous par d'autres, pour en tirer leçon, mais pas pour le copier, pour le vénérer, mais pas pour l'imiter, nous dit Buber. Au fond, il faut regarder non pas ce qui a été fait, mais ce qui est à faire. Il y a un commencement qui nous est propre et dont nous sommes responsable. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et en réalité, il faut lire en un commencement, ou mieux, pour un commencement. Si Dieu crée le monde, c'est pour qu'un commencement soit possible, pour qu'il nous soit possible de commencer, de recommencer sans cesse à vivre. Et ce commencement recommence à chaque nouvelle naissance. Saint Augustin disait « Pour qu'il y eût un commencement, fut créé l'homme. Avant lui, il n'y avait personne. » Et on peut se dire que c'est parce que tout nouveau-né est unique que l'on peut dire qu'avant lui, il n'y avait personne. Il porte en lui, nous portons tous en nous un commencement neuf, inédit. Une parole et un agir totalement nouveaux. Ce qui veut dire que chacun d'entre nous est unique et avant nous, aucun être n'a jamais, pareil à nous, n'a jamais existé et après nous, aucun être n'existera de façon pareille à la nôtre. S'il avait existé, ça n'aurait pas de sens que nous soyons au monde. Et je crois que le nom que nous avons reçu de nos parents désigne cette place unique que nous avons à occuper parmi les vivants. Ou mieux que de désigner une place, il ouvre un horizon, puisque nous parlions hier de cet intime entrelacement entre le nom et le là-bas. Hein, le nom est en même temps un là-bas, c'est-à-dire qu'il dessine un horizon. Je cite Buber qui dit « Avec chaque homme vient au monde quelque chose de nouveau qui n'a pas encore existé, quelque chose d'initial et d'unique. Chaque individu est une chose nouvelle dans le monde et il est appelé à accomplir sa vertu propre dans le monde. Que ceci fasse défaut, voilà en vérité ce qui retarde la venue du Messie. Que nous ne fassions pas ce que nous avons à faire retarde la venue du Messie. » Et Rabbi Zusia, c'est toujours les petites histoires que cite Buber, Rabbi Zusia disait peu avant sa mort, dans le monde qui vient, la question qu'on va me poser, ce n'est pas « Pourquoi n'as-tu pas été Moïse ?» Non, la question qu'on va me poser, c'est « Pourquoi n'as-tu pas été Zusia ?» Pourquoi n'avons-nous pas été le nom que nous sommes ? Voilà la question qui nous sera posée au dernier jour. Donc, au fond, pour dire que tout être a accès à Dieu, mais que chacun a un accès différent et que c'est cette différence-là que Dieu lui-même veut sauver. Dieu ne dit pas « tel chemin mène à moi et tel autre n'y mène pas », mais il dit ceci « tout ce que tu fais peut être un chemin vers moi, pourvu que tu le fasses de telle manière que cela te conduise à moi ». C'est beau, hein ? Tout chemin que tu fais peut être un chemin vers moi, pourvu que tu le fasses de telle manière que cela te conduise à moi. Alors voilà, je vous propose de garder cette idée que chacun a son chemin particulier, sa manière à lui de célébrer Dieu, de le sanctifier. Et je citerai volontiers en lien avec cette idée ce propos d'Edith Stein qui disait « Si tu veux trouver le repos, ne te compare pas aux autres. » Alors peut-être pour votre méditation, je vous glisse le psaume 16 qui dit, dont une parole dit « Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. La part qui me revient fait mes délices. J'ai même le plus bel héritage. » La part qui revient à chacun d'entre nous est la meilleure. Troisième petite balise, toujours donnée par Martin Buber, et qu'il intitule cela « La détermination ». L'idée, au fond, qu'il faut agir avec un cœur unifié. Buber raconte ici l'histoire d'un sage qui se donne le plus grand mal pour jeûner d'un sabbat à l'autre et qui, dans l'après-midi du vendredi, apercevant tout à coup une fontaine, il est tenté d'y boire. Et puis, il y renonce en se disant qu'il lui reste une toute petite heure à tenir avant le début du sabbat et qu'il ne va pas détruire, au fond, l'effort de toute une semaine en cédant à la tentation. Et à ce moment-là, une sorte de bouffée d'orgueil monte en lui et il se dit « Ah ben, finalement, mieux vaut boire que de succomber à l'orgueil. » Et au moment où il s'approche de la fontaine, eh bien, il s'aperçoit que la soif l'a quitté. Alors, le soir, il arrive vers son maître qui le reçoit par une seule parole. Au lieu de le féliciter, il lui dit « du ravaudage ». Alors, Buber commande ça et qui dit « Voici quelqu'un qui réussit à surmonter la tentation et qui ne récolte pourtant qu'un verdict négatif de la part de son maître. » Et alors, Buber interprète cette sévérité ainsi. Il dit « Les paroles du maître veulent signifier qu'on ne saurait atteindre un degré plus élevé de cette manière. Au fond, ce que le maître blâme avec cette idée du ravaudage, c'est le va-et-vient, c'est le fait d'agir en zigzag, d'aller et venir en soi-même. Et l'opposé du ravaudage, c'est l'ouvrage qui est fait d'une seule pièce. Et le seul moyen de faire son ouvrage d'une seule pièce, vous l'aurez compris, c'est d'avoir un cœur unifié, de cesser de tergiverser. Au fond, ce que veut nous enseigner cette petite histoire, c'est que nous avons le pouvoir de faire l'unification, la pacification, de nous pacifier. Nous sommes, c'est vrai, de nature multiple, compliquée, contradictoire, mais nous ne sommes pas pour autant réduits à l'impuissance, parce que, dit Buber, dans l'âme, il y a plus que l'âme. Il y a cette force divine qui agit en profondeur sur elle et qui vient justement nous aider à réconcilier les éléments contradictoires. Mais alors, cette unification du cœur doit avoir lieu, dit-il, avant d'entamer l'œuvre. Tout ce qu'il t'est donné de faire, fais-le avec toute ta force, avec ta force unifiée. C'est la condition pour que l'œuvre soit d'une seule pièce, justement, et qu'elle ne soit pas un ravaudage, qu'elle ne soit pas faite de briques et de brocs. Toutefois, Buber ajoute, aucune unification de l'âme n'est définitive, mais chaque œuvre que j'exécute d'une âme unifiée agit en retour sur mon âme, agit dans le sens d'une unification nouvelle et plus haute. Chacune me conduit, quoique par divers détours, à une unité plus constante que ne l'était celle qui la précédait. Chaque fois que nous accomplissons quelque chose de façon unifiée, en retour, c'est un plus pour notre âme qui se pacifie. Ainsi, plus longtemps à l'unification de son être, ce qui suppose, vous le savez bien, un travail sur le corps et sur le mental, plus on tend à cela par des actes concrets, plus on s'unifie. Et alors, de façon un petit peu amusante, Buber souligne que les règles de l'unification, finalement, sont semblables à celles du jeu de dames. Pour ceux qui connaissent le jeu en question, on ne peut pas faire deux pas à la fois, on ne peut aller qu'en avant et ne jamais reculer, et lorsqu'on est parvenu jusqu'en haut, on a le droit d'aller partout et là où on veut. Enfin, c'est seulement quand on est arrivé en haut qu'on peut aller partout, hein, quand on est dans l'unification. Donc, on ne peut pas faire deux pas en avant, puis on ne peut pas aller et revenir et reculer. Voilà pour cette image du jeu de dames. Alors, pour ce troisième point, la détermination, je vous invite à méditer la parole de Matthieu, Matthieu 5, verset 37, où Jésus nous rappelle, quand vous parlez, dites oui ou non. Tout le reste vient du malin. Et on retrouve cette force du oui, oui, moi. Alors, quatrième petite balise, Buber l'intitule « Commencer par soi-même ». Et là, notre auteur, au fond, nous propose de réfléchir à l'origine des conflits entre les humains. Il dit qu'il y a des motifs que les adversaires reconnaissent généralement consciemment, et puis il y a aussi tout ce qui se passe à l'insu, à notre insu, et qui est de l'ordre de l'inconscient. Et la doctrine hassidique se rapproche, je crois, là, beaucoup de la lecture psychanalytique qui voit dans les motifs des querelles les symptômes d'un mal-être plus profond. Elle rapporte donc ce mouvement du hassidisme, rapporte donc la problématique de la vie extérieure à la vie intérieure. Elle nous renvoie à ce qui se vit en nous. Et plutôt que de disséquer et d'analyser sans fin les mouvements du psychisme, alors elle envisage plutôt l'être humain dans son entier. Au fond, au lieu de se prendre sans arrêt comme objet d'analyse, elle dit « mais arrêtez de vous disséquer, mais la question c'est réajustez-vous. Réajustez-vous, réorientez-vous à ce qui est votre nature profonde. C'est donc en nous que nous devons d'abord regarder pour surmonter le conflit qui est le nôtre, afin de nous tourner ensuite vers les autres plus lucidement, on l'espère, pour nouer avec eux des relations transformées. Mais c'est sûr qu'il y a en nous toujours de la résistance. Vient immédiatement l'objection au fond qu'on est toujours deux dans la relation quand on est dans le conflit et que l'autre ferait aussi bien de regarder la poutre qui est dans son œil. Or, et la doctrine hassidique là est très claire, elle s'élève justement contre l'idée que l'individu est un individu, est quelqu'un qui se pose face à l'autre. Nous sommes, dit-elle, reliés profondément les uns aux autres, ce qui fait que la transformation d'un seul aide à la transformation de tous, et que notre travail est de commencer par nous-mêmes. Ça me fait penser à cette phrase de saint Séraphin de Sarov qui dit, vous la connaissez sûrement, « Trouve la paix et une multitude autour de toi sera sauvée ». Et là, je cite Buber, « Le point d'Archimède à partir duquel je peux, en mon lieu, mouvoir le monde est la transformation de moi-même. Si à sa place je pose deux points d'Archimède, l'un ici dans mon âme et l'autre là-bas dans l'âme de mon semblable, en conflit avec moi, le point unique sur lequel une vue s'était ouverte à moi m'échappe aussitôt. » Il n'y a pas deux points d'Archimède, il n'y en a qu'un. Et c'est celui qui nous appartient, c'est celui qui est en nous. Voilà, au fond, l'enseignement du hassidisme. Cherche la paix en ton lieu. Nous ferions bien de veiller à ce qui nous habite, parce que nos pensées sont, bien sûr, toujours les lunettes à travers lesquelles nous regardons le monde et les autres. Nous sommes ce que nous abritons. Nous sommes les pensées qui nous traversent. J'aime beaucoup cette phrase du rabbi Nachman de Breslau qui dit « Là où sont tes pensées, tu es. Veille à ce que tes pensées soient bien là où tu veux être. » Là où sont tes pensées, tu es. Veille à ce que tes pensées soient bien là où tu veux être. Et nous savons bien que nos pensées, nos divagations intérieures peuvent faire un paradis de l'enfer et un enfer du paradis. Et Buber souligne encore de façon très, je crois, très, très subtile, très judicieuse, le fait que le conflit, nos conflits intérieurs sont souvent des conflits entre trois principes, entre la pensée, la parole et l'action. Tout conflit entre moi-même et mes semblables, dit-il, vient de ce que je ne dis pas ce que je pense et que je ne fais pas ce que je dis. Je ne dis pas ce que je pense et je ne fais pas ce que je dis. Il y a en chacun d'entre nous, nous le savons bien, cette espèce d'antagonisme perpétuel entre pensée et parole, entre pensée, parole et action, pardon, donc aussi entre pensée et action. Et c'est cet antagonisme-là qui embrouille continuellement notre rapport à autrui. Par nos propres contradictions intérieures, par notre mensonge souvent, nous alimentons les situations conflictuelles et nous leur donnons du coup du pouvoir sur nous jusqu'à ce qu'elles nous réduisent à l'esclavage. Alors, une seule issue pour en sortir, dit Buber, c'est comprendre que le revirement dépend de moi et vouloir ce revirement. Je peux me réajuster, je peux changer mes lunettes. Mais pour accomplir cette haute tâche, l'homme doit se trouver lui-même, c'est-à-dire qu'il doit rejoindre par-delà son moi égocentrique, son moi profond. Peut-être que vous pourrez, pour ce point-là, méditer Matthieu 7, les versets 1 à 5, sur l'histoire de la poutre et de la paille, qui est dans notre œil. Voilà, je passe un peu vite. Maintenant, nous arrivons au point cinquième petite balise. Commencer par soi-même, donc je viens de le dire, mais maintenant, ne pas se préoccuper de soi. Distinction, hein, intéressante. Après le retour sur soi-même, après le chemin particulier, après la détermination, après commencer par soi-même, vient maintenant l'injonction de ne pas se préoccuper de soi. Pourquoi ? Parce que le chemin à entreprendre n'est jamais pour moi. Je ne suis pas à moi-même mon propre but. Commencer par soi, dit Buber, mais non finir par soi. Se prendre pour point de départ, mais non pour but. Se connaître, mais non se préoccuper de soi. Se connaître, mais non se préoccuper de soi. Et je vous l'ai dit, la conversion, le retournement est au centre de la conception juive du chemin de l'homme. Et ce retour a, au fond, le pouvoir de transformer l'homme de l'intérieur et de le rapprocher de Dieu. Si bien que l'homme du retour, on va dire, est supérieur au juste, qui, lui, ne connaît pas les abîmes du péché. Il y a une très, très jolie histoire rabbinique qui dit que chaque fois que nous péchons, nous coupons la corde ou le lien qui nous relie à Dieu. Mais Dieu, lui, à chaque fois fait un nœud. Et que quand il fait un nœud, eh bien, la corde se raccourcit et il nous rapproche de lui. Hein. Ça, je crois qu'on peut garder cette idée. On n'échappe pas au péché, mais quelque part, si nous en faisons quelque chose, il nous rapproche de Dieu. Alors, l'histoire du retour, c'est beaucoup plus que le repentir ou la pénitence. Hein. Il signifie que l'homme qui s'est égaré dans le chaos de l'égoïsme ou de la préoccupation de soi trouve par un revirement, par un retournement de son être tout entier, un chemin vers Dieu, c'est-à-dire un chemin, au fond, vers la tâche à laquelle Dieu l'a destiné. Commencer par soi, mais non finir par soi. Commencer par soi pourrait avoir un effet pervers, celui d'en rester indéfiniment à soi et de se complaire au fond dans l'aveu de ses manques, dans l'aveu de sa culpabilité. Et là, une fois encore, la tradition hassidique signifie avec sagesse qu'il faut savoir interrompre cette litanie. Au lieu de te tourmenter sans arrêt à propos des fautes que tu as commises, nous dit Buber, tu dois appliquer la force d'âme que tu consacres à cette auto-accusation, à l'action que tu es destiné à exercer sur le monde. Ce n'est pas de toi, mais du monde qu'il faut te préoccuper. Et je crois que là, on retrouve l'appel que Dieu adresse à Moïse quand il lui dit « Mais qui suis-je ? » La question n'est pas là, elle est déplacée. Mais va, fais ce que tu as à faire et tu comprendras qui tu es. Se tracasser sans cesse en pensant à l'insuffisance de ce que l'on est, à l'insuffisance de son repentir, revient au fond à priver ce travail de revirement du meilleur de sa force. Un rabbin disait, mais tu as mal agi, eh bien oppose au mal la bonne action. Arrête de regarder en arrière et regarde ce que tu es, encore une fois, ce que tu es appelé à être, ce que tu es appelé à devenir. Il convient de s'oublier et de songer au monde. Dit Buber, à l'homme qui ne pense point à soi, on donne toutes les clés. Une manière de sortir de l'égocentrisme. Alors, Buber cite encore un rabbin qui dit ceci, qui disait à ses disciples, « Ce que je demande à chacun de vous, trois choses seulement, de ne pas lorgner au dehors de soi, de ne pas lorgner au dedans du voisin et de ne point penser à soi. » De ne pas lorgner au dehors de soi, de ne pas lorgner au dedans du voisin et de ne point penser à soi. Ce qui veut au fond dire accomplir la tâche qui nous est propre et ne pas convoiter celle des autres, respecter le mystère de son prochain et s'abstenir d'en forcer la porte de le manipuler, et enfin ne pas se prendre pour le but ni dans sa vie propre, ni dans sa relation aux autres. Et au cœur de notre foi, nous retrouvons cette parole du Christ qui nous rappelle que celui qui veut sauver sa vie la perdra. Vous pouvez méditer à ce sujet cette parole dans l'Évangile de Marc, chapitre 8, les versets 34 et 35. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même et qu'il prenne sa croix, qu'il me suive. Voilà. Dernière petite balise que Buber intitule « Là où l'on se trouve ». Et là, une dernière petite histoire que l'on retrouve dans plusieurs littératures populaires, mais que la tradition hassidique interprète d'une façon particulière. Je suis sûre que cette histoire, vous la connaissez. C'est l'histoire d'un homme de Cracovie qui vivait dans la pire des misères, mais sans que cela entame véritablement sa confiance en Dieu. Et un jour, il reçoit en rêve l'ordre de se rendre à Prague pour y chercher un trésor qui se trouve sous le pont qui mène au palais royal. Comme le rêve se répète trois fois, notre homme se décide à se mettre en route pour Prague. Mais voilà que le pont était gardé jour et nuit par des sentinelles et il n'osait pas creuser à l'endroit indiqué. Il revenait pourtant là chaque matin et tournait en rond jusqu'au soir, si bien qu'un jour, le capitaine de la garde, qui l'avait longuement observé, lui demande avec beaucoup de cordialité s'il avait perdu quelque chose ou s'il attendait quelqu'un. Et l'homme alors lui raconta son rêve et son voyage depuis son lointain pays. Et voilà que le capitaine éclate de rire et lui dit « Ah, mais mon pauvre vieux, si l'on devait se fier au rêve, j'aurais dû moi aussi depuis longtemps quitter ma ville et me mettre en route après un rêve que j'ai fait pour aller à Cracovie chez un certain Ezik, fils de Yekel, chercher sous son fourneau un certain trésor. » Comment trouver évidemment un pareil homme dans une ville où la moitié des Juifs s'appelle Ezik et l'autre Ekiel. Ezik, parce que vous l'aurez compris, c'était lui, s'inclina sans mot dire et rentra aussitôt chez lui. Il déterra le trésor avec lequel, alors, et ça c'est le conte fini de façon très morale, avec ce trésor, il bâtit la synagogue qui porte désormais son nom. Mais au fond, ce qu'il y a à entendre dans cette histoire est que nous dit Buber, il est une chose qu'on ne peut trouver qu'en un seul lieu du monde, c'est un grand trésor et on peut le nommer l'accomplissement de l'existence. Et le lieu où se trouve ce trésor est le lieu où l'on se trouve. Pourquoi aller au loin chercher ce qui est sous nos pas ? Je crois que dans notre vie, nous ressentons souvent le manque, nous ressentons de façon douloureuse parfois cette différence entre ce que nous vivons et ce que nous aimerions vivre, avec l'idée qu'il y a quelque part, dans un lieu quelconque du monde ou de l'esprit, ce que nous cherchons. Quelque part, mais justement pas là où nous sommes. Comme on dit, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Or, c'est bien sous le fourneau de notre propre maison qui est enfoui notre trésor, dans ce qui nous est donné à vivre, dans ce qui, jour après jour, nous réclame. C'est là que réside notre tâche essentielle de ce que j'appellerais volontiers, à la suite d'Yvan Amar, royaumiser le monde. Nous sommes invités à porter au cœur du monde le royaume, à le royaumiser. C'est ici, à l'endroit même, dit Buber, où nous nous trouvons, qu'il s'agit de faire briller la lumière de la divine vie cachée. Et ça m'a fait repenser à cette phrase que j'avais notée un jour de Jacques Attali qui dit « Trouver sa place, c'est donner sens à celle qu'on occupe déjà. » Trouver sa place, c'est donner sens à celle que l'on occupe déjà. Alors voilà, je crois que c'est sûr que nous cherchons tous notre chemin et que certains partent très loin ou payent très cher pour cela. Certains se perdent en croyant se trouver. Et il y a bien des manières de, oui, de se perdre en croyant se trouver. Mais ce que j'ai essayé de partager avec vous cet après-midi, c'est au fond la conviction que le chemin est là sous nos pas, qu'il nous est donné chaque fois que nous parvenons à nous laisser nous-mêmes. Maître Eckhart parle de cette « gelassenheit », hein, en allemand, se laisser soi-même, se laisser tomber hors de son propre égoïsme, de son propre égocentrisme. Chaque fois que nous parvenons à nous vider de nos encombrements, chaque fois que nous parvenons à nous faire confiance, eh bien nous pouvons répondre à la manière d'Abraham ou de Moïse, ce « me voici », ce « oui, moi ». Nous pouvons nous déclarer présents devant cet appel du vivant qui habite chacun de nos cœurs. Je vous laisse ce très beau mot de François Cheng. Et là, on retrouve des liens avec la tradition taoïste, bien sûr, parce que qui accorde tellement d'importance à la fois au souffle et au vide. François Cheng qui dit dans un des vers de ses poèmes, « Laisse-toi traverser par le souffle inouï, par le pur souffle du oui. » Laisse-toi traverser par le souffle inouï, par le pur souffle du oui. Et pour terminer sur la problématique de Buber, je crois vraiment que c'est de marcher, c'est de risquer sa vie qui donne d'entendre la voix qui souffle à chacun. Je suis en train de devenir qui je suis en étant avec toi. Je suis en train de devenir qui je suis en étant avec toi. Seuls ceux qui travaillent à faire sauter les chaînes de l'aliénation en eux et dans le monde cessent au fond de chercher leur chemin parce qu'ils le découvrent sous chacun de leurs pas. Ceux-là ont compris qu'il n'y a au fond qu'une seule captivité qui rend libre. C'est ce que nous dit une parole soufie, pour faire allusion encore à une autre tradition, « Si tu veux être libre, soit captif de l'amour. » Voilà, je m'arrête là. Merci à vous.